Vous êtes bien sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette première édition de 2022 des Apatrides Anonymes.
Yeah! Ouais. Bonne année tout le monde!
Allô!
Et oui, c'est le retour donc de votre, après plus d'un mois, le retour de votre rendez-vous bimensuel d'actualité sur les questions relatives à l'immigration, à la paranoïa sécuritaire et au racisme. Évidemment, je suis accompagnée de mes deux comparses, Mathieu et Simon, qu'on vient d'entendre.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, très heureuse d'être de retour. Et vous?
Ben oui, après un mois, on a eu le temps de se...
De s'ennuyer.
Voilà.
Le 16 décembre, notre dernière émission, Marie-Ève.
Ich, c'est loin.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu des vacances de Noël et un reconfinement, évidemment.
C'est tranquille à l'UQAM, hein?
Oh, très. C'est comme dans les films western.
Ah ben.
Et donc, fidèle à notre tradition, on vous présente pour ce retour notre rétrospective de 2021. Donc, pas de nouvelles fraîches aujourd'hui. Ce sera pour notre prochain rendez-vous. Mais... on va faire un retour sur les moments qui nous ont marqués cette année, les personnalités qui ont fait l'actualité, des luttes qui nous ont inspirées, des enjeux, pays ou régions incontournables, des citations racistes, quelques prédictions pour l'année qui vient et notre fameux quiz.
Madame Quiz est là!
Parce que, une année en une heure, c'est un peu vite. On va être avec vous pour les prochaines 90 minutes. Alors, on se retrouve de l'autre côté d'un court pont musical et on va se retrouver donc avec Simon qui va tenter de nous résumer 2021 en chiffres.
Ouais. À tantôt.
Alors, Simon, j'imagine que les choix ont été difficiles.
Oui, oui, puis je prétends pas faire une rétrospective
exhaustive
parce que on s'est donné 8 minutes là, pour faire ça. Donc, il a fallu faire des choix. Je commence avec le Canada, beaucoup de chiffres, là, honnêtement. C'est le temps d'aller faire d'autres choses pour ceux qui ne digèrent pas les chiffres. Plus de 401 000 personnes ont reçu leur résidence permanente en 2021. C'est les chiffres officiels du ministère de l'Immigration. Pour faire la progression, 2019, c'était 340 000. Cru historique en 2020, 184 000. Puis là, on revient avec 400 000. C'est un record vieux de 1913 qui est battu. Donc, il faut dire que là-dedans, il y a beaucoup de rattrapage. Oui, mais c'est ça, si on prend les deux, trois dernières années qui étaient au ralenti, puis éventuellement, à plus long terme, si on prendra la décennie, on ne battra pas de record, j'imagine. La majorité des nouveaux résidents permanents étaient déjà au Canada avec un statut temporaire. Le seuil canadien pour 2022, je ne sais pas si je scoop Mathieu qui va nous parler des prévisions 2022, mais on prévoit 411 000 nouvelles résidences permanentes au niveau fédéral. L'Ontario a attiré 49% de toute l'immigration canadienne en 2021, donc presque 200 000. Viennent dans l'ordre ensuite BC avec 60 000, Québec 45 000, Alberta 35 000. Que je vois pas des nationalistes plaindre de la baisse du poids démographique du Québec au Canada. Normalement, on est la deuxième province. On devrait avoir le deuxième plus fort taux d'acceptation. Chiffre de 2021 intéressant, les interceptions de personnes migrantes par la GRC en des points irréguliers.
Comme le chemin Roxham, par exemple?
C'est pratiquement juste ça. Donc, la plupart des provinces, pour les 12 mois de l'année, incluant l'Ontario, zéro. BC, Manitoba ont des chiffres mensuels entre 0 et 20 interceptions. Le Québec, c'est comme tu disais, le fameux chemin Roxham. On commence en janvier avec 28 interceptions et on la termine avec 2778 en décembre seulement. Je vous parle plus tard de l'entente des tiers pays sûrs qui est la cause directe de cet afflux de personnes migrantes en Montérégie.
Effectivement.
Le nombre de demandes d'asile traitées en 2021 pour l'ensemble du Canada, 25 000. Peu importe le mode d'entrée, que ce soit régulier ou irrégulier. Et le ministère donne pas encore la proportion de demandes qui ont été acceptées ou refusées. Pour finir avec le Canada, 4 800 personnes afghanes ont été reçues jusqu'à maintenant suite à la prise de Kaboul par les talibans au mois d'août. Image très marquante de 2021 d'ailleurs, la ruée vers l'aéroport de Kaboul et les gens qui s'accrochaient carrément là, aux ailes des avions. Mm-hmm. On passe aux États-Unis, restrictions frontalières en lien avec la COVID maintenues pour tout ce qui concerne les personnes migrantes, même si les restrictions sur le tourisme, les affaires, les marchandises ont été levées. Le phénomène des impressionnantes caravanes de migrants qui remontent l'Amérique centrale s'est poursuivi toute l'année. Ça, le rythme est relativement soutenu. Les migrants haïtiens, pour qui la frontière est autant verrouillée que pour les caravanes, ont marqué l'actualité américaine. On se rappelle une des autres images très marquantes de 2021, la cavalerie américaine qui pourchassait les migrants haïtiens avec des bâtons, des fouets à cheval en plein désert. C'est quand même quelque chose. Fait inhabituel à cette date-ci, l'administration Biden n'a pas encore sorti son rapport 2021 sur le ICE. Donc, pour le bilan sur les arrestations, détentions, déportations, j'ai juste réussi à trouver des chiffres partiels, mais il y a un chiffre qui est sorti cette semaine. Plus de 2 millions de personnes arrêtées à la frontière États-Unis-Mexique. En 2021 seulement. 2 millions.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Est-ce qu'on a les chiffres pour les autres années? C'est combien? On ne sait pas.
Ah oui, c'est disponible. Je ne les ai pas avec moi, okay. Mais c'est une année, c'est une grosse année.
C'est bon.
Autre chiffre assez significatif, 11 400 réfugiés admis en 2021 aux États-Unis. C'est le chiffre le plus bas depuis que la loi sur les réfugiés a été adoptée en 1980 par Washington, année où on avait accueilli 207 000 réfugiés versus 11 000 aujourd'hui.
Je pense que c'est moins qu'au Nouveau-Brunswick, là. C'est pas des chiffres.
Ben, non, c'est ça.
Parce qu'il y a des capacités d'accueil un peu plus grandes aux États-Unis qu'au Nouveau-Brunswick. En début d'année, Washington avait autorisé 100 000 Haïtiens vivant déjà aux États-Unis à appliquer pour un statut temporaire. En même temps, les déportations avaient recommencé suite à une genre de pause COVID. Il y a eu 14 000 déportations d'Haïtiens à partir de septembre. On sait qu'Haïti vit actuellement sa pire crise depuis le tremblement de terre, oui. Avec les groupes criminels qui ont pris le contrôle des routes, des ressources, de l'approvisionnement. Le niveau d'insécurité est à son paroxysme actuellement. Beaucoup de migrants haïtiens sont coincés devant la frontière américaine et finalement, beaucoup décident de demander la résidence permanente au gouvernement mexicain. Il y aurait eu plus de 100 000 demandes par des migrants haïtiens au gouvernement mexicain en 2021, ce qui en fait de loin le groupe qui a le plus demandé la résidence permanente au Mexique.
Ah oui?
Oui, plus que Salvador, Honduras.
Oui, c'est ça, mais c'est un phénomène nouveau, là, c'est vraiment...
C'est un phénomène qui s'est beaucoup amplifié. C'est ça, de cette ampleur-là, exactement. Si on prend la grande région Mexique-Amérique centrale, l'ampleur des déplacements atteint en 2021 le million de personnes. Un petit coup d'œil sur l'année 2021 en Europe. J'aborderai pas la Manche ou la frontière Pologne-Biélorussie. Marie-Ève et Mathieu vous en parlent tantôt. on parlait des réfugiés afghans au Canada. C'est environ 3 000 en France, 4 000 en Allemagne, 8 000 au Royaume-Uni. Donc, on parle à terme d'un total de 40 000 réfugiés afghans pour l'ensemble de l'Union européenne. Maintenant, les traversées par la mer, en 2021, le nombre de morts en Méditerranée et dans l'Atlantique ont continué d'augmenter. Au moins 1500 personnes mortes dans la Méditerranée contre 1000 en 2020, augmentation de 50%. Des chiffres qui sont sous-évalués selon l'ONG Caminando Fronteras. Il y aurait eu plus de 600 cas de refoulement illégaux de migrants dans la mer Égée en 2021. Des pushbacks commis par les autorités frontalières grecques en collaboration avec Frontex, l'agence européenne. Plus vers le centre de la Méditerranée, c'est plus de 32 000 migrants interceptés en mer et ramenés en Libye en 2021, ce qui ne constitue pas nécessairement un geste illégal au sens de la loi comme le sont les pushbacks, puisque la Libye, c'est elle-même qui intercepte dans ses propres eaux territoriales. Puis on est passé en 2020 de 12 000 interceptions à 32 000, comme je le disais, en 2021. Donc, ça a quasiment triplé. Il faut dire que les gardes-côtes libyens sont backés par Rome et Bruxelles dans le cadre d'un accord qui a été renouvelé encore une fois cette année. Autre chiffre marquant, 2021 est une année record pour les embarcations de migrants à la dérive. Plus de 300 qui ont été recensés dans le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire, même en temps de guerre mondiale. Du côté de l'Atlantique, on a comptabilisé plus de 900 morts dans l'océan sur la route des îles Canaries. Le nombre des arrivées dans l'archipel espagnol est stable par rapport à 2020. On est autour de 20 000, avec toujours des capacités d'accueil largement insuffisantes. Il y a moins de monde qui passe par les îles Canaries que par la Méditerranée, mais l'Atlantique, c'est des eaux plus dangereuses, donc en proportion, il y a toujours plus de morts. Ouais. Je termine avec des chiffres plus généraux. Le chiffre le plus hallucinant, on fréquence encore des records, plus de 84 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en 2021. C'est plus qu'en 2019 et 2020, qui étaient elles aussi des années records. En Afrique, les pays les plus touchés sont la Centrafrique, le Soudan, la RDC, le Burkina Faso et l'Éthiopie, où se trouvaient déjà sur place des milliers de réfugiés érythréens dont les camps ont été incendiés à cause du conflit dans le Tigré et qui ont fui vers le Soudan, qui n'est pas nécessairement l'endroit de rêve, puis qui n'est pas nécessairement équipé en termes de capacité d'accueil. L'Afghanistan, j'en parlais tantôt, même avant que les talibans prennent Kaboul, la situation dans le pays était déjà catastrophique, mais à la fin de l'année, juste les déplacés internes, on était rendu à 3,5 millions.
Ouf, quand même.
Autre point très chaud depuis quelques années, c'est le Venezuela, dont le nombre de déplacés a continué d'augmenter, mais moins rapidement que par les années précédentes. On est quand même rendu un total de 6 millions de déplacés, autant à l'intérieur du Venezuela qu'en Colombie et dans quelques autres pays de la région. Mini bonne nouvelle pour terminer ce spécial chiffre marquant de 2021. Le nombre de journalistes assassinés est de 45, soit un tiers de moins qu'en 2020. Donc, on prend les bonnes nouvelles là où on peut. C'est un bilan qui est considéré comme relativement bas par la Fédération internationale des journalistes. C'est en Afghanistan où il y a eu le plus de journalistes tués, et ensuite, dans l'ordre, Mexique, Inde et Pakistan. Je vous parle un peu plus tard de la situation de la presse à Hong Kong. Donc voilà les chiffres 2021. C'était condensé, c'était dense.
C'était très dense, mais non, ça donne une bonne vue d'ensemble. Merci.
Ben, ça fait plaisir. Bon, on mettra une petite version au ralenti, peut-être.
Peut-être sur notre site, ou peut-être qu'on pourra mettre en bullet points là, sur notre site ou quelque chose
peut-être
du genre.
Ouais, une petite liste statistique, là. Ouais, ça pourrait être intéressant.
Ben, merci beaucoup, Simon.
Plaisir.
Et oui, mesdames et messieurs, vous l'attendiez tous et toutes, le retour du super quiz des Youpi! Apatrides anonymes. Ça fait que le quiz va être en deux blocs. Le premier bloc va porter sur les actualités canadiennes et québécoises. Donc, on reste au fameux Canada. Alors...
Le quoi?
On le dit juste une fois.
D'accord.
Première question. Parmi les lieux suivants, dans lesquels on n'a pas découvert de sépultures non marquées d'enfants autochtones, okay? Dans quel des lieux suivants on n'a pas découvert de sépultures non marquées d'enfants autochtones?
D'accord.
A. Kébaouek ou Eagle Village, qui est situé en Abitibi-Témiscamingue. B. Kamloops, en Colombie-Britannique. C. Marival, en Saskatchewan. Ou D. Tofino, en Colombie-Britannique.
Mathieu, j'aurais dit l'Europe en premier, mais peut-être Tofino. Tofino, on a trouvé une tombe de premier ministre, si je me rappelle bien.
Exactement!
Mais pour l'Abitibi, je n'étais pas au courant.
Oui, okay. Ça fait partie d'un des endroits. Ben oui, évidemment, le lien, c'est que c'est Tofino, c'est lors de la première journée nationale pour la vérité et la réconciliation au 30 septembre. Justin Trudeau a trouvé que c'était une bonne idée d'aller y passer ses vacances à la plage plutôt que de répondre à l'invitation des communautés autochtones, de la communauté autochtone de Kamloops, donc qui l'a survolé d'ailleurs se rendant à Tofino.
Ben, il a pu faire des babayes, j'imagine.
Oui, tata. Simon, tu parlais des réfugiés afghans. On va peut-être s'obstiner sur des chiffres. Ah. Combien de réfugiés afghans ont jusqu'à maintenant été accueillis sur les 40 000 que le gouvernement Trudeau a promis d'accueillir en deux ans? On l'a dit tantôt, fait que je donnerai pas le choix de réponse. Toi, tu avais 4 800.
Ben, c'est ça que peut-être j'avais pas un article à jour non plus.
Je dirais 10 000.
Non plus, c'est 6750. Ah, okay. Sauf que ça comptait à peu près 150 qui ont été accueillis après le premier
contingent.
Après le 1er janvier.
Ah, okay.
Donc si on y va là pour l'année, ça va être quelque part entre 6700 puis 4800 dans le fond. Mais ce qui est vraiment en deçà, parce que c'est quand même 40 000 en deux ans, là, ça fait un an. Puis on n'a même pas 10 000 d'accueillis, tu sais. OK, donc, laquelle de ces insultes a été utilisée contre Will Prosper alors qu'il se présentait comme candidat à la mairie de Montréal, de Montréal-Nord, pour Projet Montréal? A. Pas besoin d'être une taupe. De Denis Coderre, c'est lui qui l'a traité de ça.
Abondamment.
B. Ex-policier Jacques Asseur, anti-policier, de Mathieu Boccoté.
Oh.
Et c'est une candidature absolument inacceptable de Joseph Facal.
Je dirais que c'est Mathieu Boccoté.
Ben, je vais y aller avec Facal.
C'est toutes ses réponses.
Ah, toutes ses réponses qui sont pas
qui
vraies.
Sont vraies.
Qui sont vraies. Ah, j'avais pas compris la question.
A été utilisée, ouais.
OK.
Toutes ces réponses-là. Les gens s'en sont donnés à cœur joie pour c'était dans le contexte là pour comme quoi Will Prosper avait été aurait été forcé de quitter la GRC par faute grave parce qu'il informait des criminels là.
Oui, une affaire louche qui a été bien utilisée par certains médias de droite.
Oui, coulée entre autres par le Journal de Montréal. Quelle surprise. OK. Autre question.
Oui.
Là, écoutez bien. Lequel de ces livres, n'était pas visé par l'autodafé de 5000 livres du Conseil scolaire catholique Providence en Ontario?
OK. On est dans les quelles années, là, à peu près? Hein?
Cette année? C'est tout en 2021,
c'est
là?
Bon.
C'est un quiz bilan de 2021.
Je viens de comprendre.
OK. Donc, lequel n'était pas visé? Les Cowboys et les Indiens de Jean-Michel Biliou, Tintin en Amérique, La conquête de l'Ouest, les Amérindiens, les pionniers et les colons, ou aucune de ces réponses?
Aucune de ces réponses.
Je voyais avec la famille, aucune de ces réponses.
Effectivement, ce sont tous des livres qui ont été visés. Pour le livre de Les Cowboys et les Indiens, simplement pour son titre qui a été jugé, et je cite, atroce. Tintin en Amérique, langage non acceptable, désinformation erronée, présentation négative des peuples autochtones, présentation fautive des autochtones dans les dessins. Et pour la conquête de l'Ouest, c'est à cause du mot conquête dans le titre.
Mais là, c'est autodafé, tu parles du truc en Ontario.
Okay. Oui, truc en Ontario, du Conseil scolaire catholique de Providence.
OK, d'accord.
Prochaine question, et ce sera la dernière question de ce bloc. En septembre 2021, après avoir traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke, François Legault a donné sa définition toute personnelle du terme woke. Quelle est-elle? A. Une personne qui a milité dans le mouvement étudiant pour ensuite devenir députée Québec solidaire, qui est un repère de woke. B. Une personne qui voit du racisme partout. C. Quelqu'un qui veut nous faire sentir coupable de défendre la nation québécoise. Ou D. Une personne qui est consciente des injustices sociales, comme la discrimination raciale, et qui veut éveiller les consciences et lutter contre ces injustices.
Ben, c'est la culpabilité, évidemment.
Ben oui.
Ah, j'aurais dit quelqu'un qui n'est pas caquiste. Mais...
Qui n'est pas caquiste, oui, c'est ça.
Non, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupable, Marie-Ève, tu le sais.
Ben oui, je sais bien.
Ouais.
Mais non, une personne qui voit du racisme partout, ça c'est... En fait, c'est la définition de tous les chroniqueurs et chroniqueuses de l'Empire québécois.
OK.
Bon, fait que là, mais Simon, il faudra te suivre plus la prochaine...
Mais Providence, je me rappelais pas que c'était en Ontario, c'est juste pour ça.
Mais oui.
Mais l'autodafé, ça a marqué quand même certains médias cette année, hein?
Oui, non, beaucoup, ça, plusieurs en ont fait leur chou gras. On va poursuivre donc avec le quiz plus tard avec la scène internationale, mais pour l'instant, on va s'en aller à musique. Et Mathieu va nous présenter ça au retour.
Au retour?
Oui.
OK, on y va en Muse.
seen on Main Street when John 50 comes to town. Yes, this is the scene on Main Street when John 50 comes to town. Crowds of every age, creed, and gender are abound. Senor Kitsch sings kiss, detaining each attendee's sins. The first time anteaters lose themselves in the wings, with vigor they scratch red spots, overwhelmed by their king. In all the world, there's no escape from this inferno din. In all the world, there's no escape from this inferno din. The true FM, from all boys and girls, come listen to these, my eternal words. Judge not who you see by whatever they may say, but by their round eyes, lips, ears, and curves. A man is his country, your country is you. All bad is forewarned, all good will come true. These words are heard on Main Street when John 50 comes to town. Yes, these are the words of Main Street when John 50 comes to town. The god of his non-song whips strong into frenzy. The echoes of his crooning now cease to be heard. No longer pale brunettes are broken in two and thrown to the snouts of the antidote crew. John 50 is intolerant, his soapbox usurped, his torn robe adorns the tree stumps of the earth. No hat with an army will last long before he breeds men who yearn for their own bloody glory.
Mathieu, dis-nous donc ce qu'on vient d'entendre.
Ben, on vient d'entendre mon choix de 2021, qu'on n'avait pas fait de joie à l'émission. Ben, un choix, il y a eu plein de bonnes chansons en 2021. Ben oui. Mais un groupe qui m'a vraiment marqué, que j'ai entendu beaucoup dans les radios communautaires et étudiants, qui s'appelle Black Midi, la pièce John L. Et c'est un album qui est sorti en 2021 qui s'appelle Cavalcade sur Rough Trade, une légendaire étiquette indépendante. Et c'est un groupe de Londres qui existe depuis 2017 et qui est dans la super vague de post-punk british qui est assez forte depuis quelques années. Il y a plein d'autres groupes qu'on a fait jouer à l'émission, puis d'autres qui s'en viennent. Donc, dans un mélange de jazz, de post-rock, de métal un peu, de...
Non, c'est assez... Mat-rock.
Ouais, donc, Black Midi, un très bon groupe.
Vous irez voir le vidéoclip, puis il est assez rigolo.
Exactement.
Alors, écoutez, maintenant, ben, plusieurs personnalités, groupes de personnes ou organisations ont marqué l'actualité aussi en 2021, en bien ou en mal. Évidemment, on peut pas non plus en faire une liste exhaustive, donc on vous présente en quelque sorte nos coups de cœur. C'est moi qui ai le privilège de commencer. Et moi, ce sont les travailleurs et travailleuses immigrantes précaires qui ont vu leurs conditions de vie et de travail continuer de se détériorer en 2021. On n'a qu'à penser au fameux ange gardien qui, en septembre 2021, était moins de 3000 à avoir été régularisé au Québec. Et dans le cas de Mamadou Konaté, a été le plus médiatisé. Mmh. Ce sont les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver pour le Québec. Et j'ai été incapable de trouver ceux pour l'ensemble du Canada. Imaginez-vous donc.
Je suis pas sûr qu'on tient ce genre de statistiques.
En tout cas, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Dans les faits, plusieurs de ces travailleurs-là, travailleuses, se sont retrouvés au front de la COVID-19. Dans sans papier dans les hôpitaux, les CHSLD ou les RPA, souvent en mettant leur vie en danger. Rappelons aussi que le programme de résidence permanente des travailleurs travailleuses essentielles ou de la santé du gouvernement Trudeau, qui s'est terminé le 5 novembre, s'applique pas aux personnes sans papier ou aux demandeuses du statut de réfugié. En décembre, je vous parlais aussi de ces centaines de travailleurs agricoles temporaires qui se sont retrouvés dans l'incertitude après avoir été évacués de fermes dévastées par les inondations en Colombie-Britannique à l'automne. Même s'ils ils avaient été conduits dans des refuges, la grande majorité était non seulement sans contact avec leur employeur, le gouvernement ou même leur consulat, mais ils se sont retrouvés sans argent et souvent sans leur passeport. Plusieurs de ces travailleurs-là, de la santé, soit de la santé ou du domaine de l'alimentation ou des entrepôts de grandes chaînes comme Dollarama, ont contracté le virus sur leur lieu de travail.
Amazon, on a entendu parler pas mal aussi.
Et certaines en sont mortes dans l'indifférence générale. Et malgré quand même la précarité de leur situation, l'insécurité et la peur constante d'une éventuelle déportation, eh bien, ces travailleurs et travailleuses ont refusé d'être réduits au silence. Bien au contraire, ils ont continué de se battre pour leurs droits, de s'organiser collectivement pour se soutenir mutuellement. Ils ont manifesté dans les villes de Montréal, Toronto, Vancouver et ailleurs. Franchement, peut-être qu'on pourrait arrêter de s'apitoyer sur notre sort de petits privilégiés qui doivent présenter un passeport vaccinal pour rentrer à la SAC et s'incliner devant le courage, la résilience et la détermination de ces milliers de personnes.
De l'ombre.
Oui. Et toi, Mathieu, ton hommage va à qui?
Ben, vers des militants, d'autres genres de militants, écolos, les défenseurs des forêts à Ferry Creek sur l'île de Vancouver, le fameux Rainforest Flying Squad, c'est le nom de l'organisation qui chapeaute un peu tous ces gens-là. Un exemple parmi tant d'autres des luttes au Canada actuellement pour la défense des territoires contre l'exploitation des ressources et la destruction de l'environnement. Celle-ci, c'est une lutte à la fois vraiment autochtone et allochtone. Donc, sur le territoire des nations autochtones Wahaat, Dititat, et Pachédat. Les mobilisations sont en cours depuis octobre 2020 contre l'abattage des forêts anciennes et ça constitue le plus important mouvement des désobéissances civiles de l'histoire canadienne actuellement en termes de nombre d'arrestations. Il y en a eu 1188 entre mai et décembre 2021 par la gentille GRC. Vous savez qu'une première injonction a été accordée en avril dernier, c'est-à-dire une zone d'exclusion à géométrie variable appliquée aux manifestants et aux journalistes. En septembre, l'injonction a été suspendue en raison, entre autres, de la violence de la GRC qui était documentée. Mais en octobre, la compagnie forestière a obtenu le retour de l'injonction le temps des procédures d'appel et hier, 26 janvier, l'injonction a été prolongée jusqu'au 26 septembre. Donc, toutes les manifs sont officiellement interdites pour tout l'hiver, printemps, été. Okay. Les opérations de la GRC ont coûté combien, vous pensez, depuis...
Un milliard.
Depuis mai dernier?
Depuis mai dernier, je dirais 1 million.
9 millions.
C'est parce qu'on parlait à un moment donné de que tu sais l'armement c'était le SWAT, en tout cas c'était bien gros là comme affaire, mais en tout cas.
Okay. En juin, le gouvernement Horgan a suspendu les coupes des forêts anciennes dans le bassin versant de Ferry Creek et dans une autre vallée qui s'appelle Walbrun pour 2 ans à cause de la pression de la situation. En novembre, il a annoncé vouloir suspendre pour 2 ans l'exploitation de 2,6 millions d'hectares de forêts anciennes dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, mais qu'il y aura des ententes de fait avec chaque nation. Ça peut prendre des années de régler ça et avec les compagnies forestières. Et cette semaine, une première entente a été signé avec le conseil Nanwakolas pour un territoire de seulement 2500 hectares de forêts anciennes. On parle de 2,6 millions, là. Et on rappelle qu'il reste seulement 2,7% des forêts ancestrales de la Colombie-Britannique qui existent toujours actuellement. Donc, histoire à suivre en 2022.
Yes. Et toi, Simon?
Ben moi, je vais aller à l'autre bout du monde, à Hong Kong. Ça a été une année difficile pour la presse. Les trois principaux sites de nouvelles / journaux indépendants et pro-démocratie qui diffusaient, entre autres, en cantonais, sont maintenant fermés suite aux menaces policières, aux saisies d'ordinateurs, aux arrestations et détentions de leurs journalistes et dirigeants. Apple Daily a fermé en juin 2021, Stan News le 29 décembre 2021, c'est tout récent, et juste après Citizen News le 2 janvier 2022. Je suis allé vérifier, les trois sites affichent maintenant une page d'erreur. On est dans la... Ben c'est vrai, ils ont carrément fermé. On est dans la foulée de l'adoption de la loi sécuritaire très fourre-tout adoptée en 2020 pour soumettre et siniser Hong Kong, donc loi qui donne des pouvoirs extraordinaires à la police et suspend plusieurs droits fondamentaux. Loi qui s'en prenait d'abord au mouvement de protestation, puis la répression s'est étendue à la presse locale en 2021. Le gouvernement s'en prend maintenant à la presse étrangère. Je vous donne des exemples tirés du rapport de Reporters sans frontières qui s'appelle « Le grand bond en arrière du journalisme en Chine », dont je vous recommande la lecture. Premier exemple, pour obtenir ou renouveler sa carte de presse, téléchargement obligatoire d'applications espionnes et formation obligatoire sur la pensée de Xi Jinping. Deuxième exemple, record mondial de détention de journalistes avec 127, à notre connaissance, c'est peut-être plus. Groupe de presse étrangers qui déménagent leur personnel de Hong Kong vers Séoul à cause de la surveillance, de l'intimidation et du chantage au visa si on se conforme pas au discours officiel. C'est dommage parce que Hong Kong servait de poste avancé de la presse libre en Chine. Donc, avec ce genre de chape de plomb, ça va être de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe pour les Ouïghours, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Tatars, les Tibétains, les Taïwanais, les artistes, les militants, qui risquent de sombrer dans l'oubli parce que beaucoup d'informations passait par les journalistes qui étaient basés à Hong Kong, qui est finalement qui était une brèche pour le gouvernement chinois, mais une brèche qui est en voie d'être colmatée. Donc voilà, salut et solidarité avec ces journalistes qui ont essayé jusqu'au bout de faire leur travail. Ça donne hâte aux Olympiques, tout ça.
La semaine prochaine!
Ah, c'est de la semaine prochaine! La semaine prochaine! Okay.
Petite pause musicale? Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Vous êtes dans notre revue rétrospective de l'année 2021. On y va maintenant, en fait, avec pays ou région marquante ou chaude, là, selon ce que vous voulez. Alors, Mathieu, toi, qu'as-tu choisi?
Ben, j'ai choisi un incontournable dont on a parlé beaucoup à l'émission en 2021, c'est-à-dire ce qui se passait aux frontières orientales de l'Europe, de la forteresse Europe, entre autres avec l'histoire de la Biélorussie. Petit rappel qu'il y avait entre 15 et 20 000 migrants début novembre en Biélorussie, majoritairement aux frontières et majoritairement d'Irak, de Syrie et surtout des Kurdes. De l'autre côté, en novembre, il y avait 15 000 soldats polonais à la frontière. L'accès à la zone dite rouge était interdite à toute personne, toujours interdite à toute personne non résidente, y compris aux ONG et aux avocats. On a eu droit aussi à l'instauration de l'état d'urgence dans la zone et la légalisation par le Parlement des refoulements à la frontière, toujours en Pologne. Selon les derniers chiffres de la Commission européenne, datés de décembre, un peu moins de 8 000 migrants ont réussi à rentrer à l'UE via la Biélorussie en 2021. 4 200 en Lituanie, 3 200 en Pologne et 426 en Lettonie. Rien qu'en Lettonie, près de 8 200 personnes ont été refoulées légalement, parce qu'on a beaucoup parlé de la Pologne, mais la Lituanie a été assez active aussi côté répression. Des milliers de personnes sont toujours enfermées dans les centres en Lituanie. En décembre, les députés ont voté une loi permettant d'allonger à un an la durée de détention des exilés. Plus de 3 000 dossiers de demande ont déjà été rejetés sur les 4 000 quelques. Seules 87 personnes ont été acceptées. Et la Lituanie a opté pour l'incitation financière et propose maintenant 1 000 euros et un billet d'avion aux candidats au retour volontaire.
C'est ça, ce qu'ils appellent les retours volontaires, oui.
Et seulement 482 personnes ont pour le moment accepté cette compensation. Donc, on peut dire aussi que près de 4 000 Irakiens officiellement qui étaient bloqués ont été rapatriés chez eux là, à partir des trois pays. On parle de 14 migrants qui sont morts dans cette crise-là officiellement depuis le mois de septembre-octobre environ. Et l'ONU, qui souhaitait en décembre aller voir ce qui se passait à la frontière, a été empêchée d'y aller et par la Biélorussie et par la Pologne pour accéder à la zone frontalière. Puis là, actuellement, il en reste combien? On le sait pas trop. On sait qu'il y en a qui vivent dans des camps encore de fortune avec l'hiver, et d'autres qui ont été mis dans des centres du côté biélorusse, des centres d'urgence où les conditions sont un peu ordinaires. Donc, il y a plein d'autres choses dont je pourrais vous parler. Des bisons, Maria, j'en parlerai à la prochaine émission, qui sont morts à cause de la clôture. Mais disons qu'il y a plein de nouvelles qui continuent à émaner, même si c'est pas sous les feux de la rampe encore dans l'actualité. Ça l'est plus depuis décembre. Mais c'est vraiment une catastrophe. Ça représente vraiment l'Europe qui est... l'échec de l'Europe, oui, complètement, oui, là, au niveau de ses frontières. Là. C'est son accueil.
Toi, Simon, un autre échec ou...
Ben, c'est une région avec beaucoup de problèmes généraux, mais en tout cas, pour revenir à l'Europe, le pape, ton idole, Marie-Ève, parlait de naufrage de civilisation.
C'est ça. Hein, c'est en Biélorussie, c'est un peu ça aussi.
Sinon, moi, j'avais pensé au Yémen. Depuis quelques années, c'est considéré par tous les analystes comme la plus grande crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne l'ai pas choisi comme région marquante parce que, oui, ça a empiré. On dit que c'est maintenant 2/3 des Yéménites qui dépendent de l'aide humanitaire. Mais en 2021, il n'y a rien qui a vraiment bougé. On fait du surplace. C'est la même dynamique de blocus hermétique étouffant contrôlé par la coalition militaire qui est dirigée par l'Arabie saoudite et ses alliés. On va espérer qu'il y ait de l'évolution en 2022. Donc, j'ai préféré parler du plus peuplé des pays africains, le Nigeria, comme région marquante de l'année, parce que dans ce coin-là, ça bouge vite, ça change souvent. Il y a des relations tendues avec les voisins assez turbulents comme le Tchad et le Niger. Il y a des tensions politiques internes assez vives, des tensions interethniques et interreligieuses assez fortes. Dans le nord du pays, il y a des groupes djihadistes comme Boko Haram et des factions d'Al-Qaïda et d'autres groupes criminels aussi qui sont pas nécessairement djihadistes, qui terrorisent les populations locales. Les enlèvements de masse se sont intensifiés en 2021, parfois par centaines d'un seul coup, parfois plusieurs par mois. Et c'est encore beaucoup des jeunes étudiantes. On dirait que c'est ça le pattern. Ces groupes armés se font la guerre entre eux. C'est assez complexe, plein de villages détruits, de routes bloquées, tout ça dans un coin où la désertification progresse rapidement. Alors que dans le sud, côtier et pétrolier qui attisent les grands groupes chinois et occidentaux, les changements climatiques sont en train de faire d'autres sortes de ravages, comme rendre Lagos, maintenant plus grande ville africaine avec 21 millions d'habitants, déjà inhabitable en grande partie, avec des inondations chroniques, tout comme beaucoup de régions nigérianes qui disparaissent carrément dans l'Atlantique. On calcule qu'il y a 98 millions de Nigériens qui vivent dans la pauvreté extrême, ce qui en fait le plus important bassin de pauvreté de la planète. Je pourrais continuer la liste des maux qui affligent le Nigeria, mais je pense que ça nous fait déjà un bon amalgame d'à peu près tous les problèmes qui affectent l'Afrique subsaharienne en général, tout ça concentré dans un seul pays. Donc, 21 a été dur, intense pour le Nigeria, et watch out pour 2022 avec un potentiel de déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest qui est déjà pas mal fragile par endroits. Voilà pour ma région marquante.
Bien des choses à surveiller en 2022, effectivement. Ah oui. Pour ma part, vous l'aurez sans doute deviné, je me tourne vers la Manche. 2021 a été une année record pour le nombre de traversées, avec presque 28 400 migrantes qui ont gagné les côtes anglaises à bord de petites embarcations, soit plus du triple de l'année précédente, qui était de 8 400. Si on ajoute les tentatives infructueuses, parce que ça, c'est les traversées qui ont fonctionné, à ce chiffre-là, on parle de 34 000 personnes contre 10 000, mettons, là, en 2020, 2300 en 2019 et 600 en 2018. Donc, c'est vraiment fulgurant comme progression. Seulement au mois de novembre, c'était le mois le plus intense, avec 6 900 personnes qui ont fait la traversée, malgré les dangers. Et en un seul jour, c'était 1185 personnes. Donc, c'est vous dire. Et bon, ben évidemment, certaines de ces personnes-là l'ont payé de leur vie. On peut pas passer sous silence le naufrage du 24 novembre, qui est le plus important naufrage depuis 2018, qui a fait 27 morts, qui a exacerbé les tensions entre Paris et Londres sur la question migratoire, comme on vous en a parlé. Au total, il y a au moins 30 personnes qui sont mortes dans la Manche en 2021. Ça veut dire que dans tout le restant de l'année, il y en avait eu 3. 4 ont été portés disparus, comparativement à 6 et 3, respectivement, là, en 2020. Dernier chiffre, je vous le promets, 8200 personnes migrantes ont été secourues par les autorités françaises en 2021. Il y a un projet de loi controversé qui prévoit des mesures plus sévères contre les passeurs, mais aussi contre les migrantes arrivées illégalement, qui est en cours d'examen au Parlement. D'Angleterre, du Royaume-Uni. S'il est adopté, les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire vont être renvoyés vers les pays tiers, vers les pays sûrs par lesquels ils ont transité. Bref, ça aussi, ça va être à surveiller en 2022. Alors, on va aller faire un tour en musique avant de poursuivre sur les enjeux marquants de 2021. Simon, est-ce que tu veux nous présenter ton choix?
Bien sûr. On parle pas beaucoup de Palestine-Israël dans cette émission-ci, dans notre spécial 2021. Puis c'est pas parce qu'il s'est rien passé dans ce coin-là, au contraire. Donc, je vais rétablir l'équilibre avec un rap palestinien, un duo avec, je sais pas si je prononce bien, Dabour, D-A-B-O-O-R, qui est un jeune rappeur de Jérusalem-Est. Et
Shabzdid.
Merci, qui est aussi natif de Jérusalem-Est, mais qui, lui, est maintenant basé à Ramallah et qui fait plus figure de vétéran du hip-hop palestinien. Les deux rappeurs sont sur étiquette BLTNN, qu'on prononce Blatinum. Leur flow aux deux en arabe est assez impressionnant. On va écouter la pièce In An, sortie, c'est un single sorti en mai 2021, qui paraît-il est devenu assez rapidement un hymne à la résistance chez les jeunes palestiniens, autant à Gaza en Cisjordanie.
ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بنضرب حرب الليلة ما بنغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنات على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنط نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاقع بشباب ينضرب بالغاز احنا الجدعين زي نقلير رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة وصحابي ملان في الجلمة نشنع نعمل غلبة تجينا خالي مناخد العتبة تخوف بالليل نضوي لك عتمة بس شوف تنساش انا زي النوس لح فتك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين 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 بالجدعنة انا فاتح دكان من بعش هلسات والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمة قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعان ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو
حطمت من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ قد اللعب على هذا نترك على النار لفكار تنبخ اخ تراد ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك لعب تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيزي بديك في فلاشة ما فيش راح حميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدا العدل شاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار على الساب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو
ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو ان ان قد اينا اوينو بوم بخ وطن بيعم زينو كيف بس عب صوت وسوليد الشيل حط كله طرح بمكانو
Les artistes d'abord et Shabzdid sur les ondes de choc.ca aux Apatrides Anonymes. Vous êtes toujours dans notre rétrospective 2021 et maintenant on va parler des enjeux qui nous ont particulièrement marqués et on va commencer par par Simon. Alors oui. Oui. Alors toi Simon, tu restes au Canada, je pense.
L'entente des tiers pays sûrs, donc États-Unis, Canada, c'est la saga judiciaire kafkaïenne par excellence. Les tribunaux se pitchent cette entente de marde là entre eux depuis son adoption en 2004. Telle disposition est contestée, désinvalidée, revalidée, ça finit jamais. On peut parfois lire des titres aussi absurdes que Ottawa conteste la contestation. Le dernier épisode date de décembre dernier. La Cour suprême a décidé de se pencher, je crois que c'est pas la première fois en plus, que ça se rend jusqu'à la Cour suprême. Donc, elle va étudier le principe selon lequel les deux signataires de l'entente, donc Canada et États-Unis, ne sont pas des refuges sûrs pour tout le monde, tel que l'entente le prétend, et que refouler certains demandeurs peut les exposer à toutes sortes de dangers aux États-Unis, à l'emprisonnement, à toutes sortes de situations très peu sécuritaires, comme ça peut aussi les exposer à des renvois par les États-Unis vers leur pays d'origine, qui sont encore moins sécuritaires, comme Haïti ou certains pays d'Amérique centrale, Salvador, Honduras, par exemple. L'entente des tiers pays sûrs, ça fait longtemps qu'elle aurait dû être abolie, mais on dirait que c'est une patate chaude politique. Les libéraux sont frileux. Ils continuent de la défendre, même si ses conséquences sont de faire en sorte de forcer les gens à entrer de manière irrégulière. On en parle souvent. Le chemin oui. Roxham est rendu le plus achalandé et célèbre point d'entrée irrégulier de tout le Canada. Ça fait aussi en sorte qu'en cette année pandémique 2021, le chemin Roxham a été, entre guillemets, là, ouvert, fermé, réouvert, provoquant toutes sortes de situations absurdes. Bref, si la tendance se maintient dans notre bilan de 2022, dans un an, même s'il y a plein de monde qui la conteste depuis 17 ans, on va sûrement encore vous parler de la maudite entente des tiers pays sûrs.
Ah non!
Je le mettrai dans le quiz cette fois-là.
Oui,
ça et va toi? Être fun. Toi, Mathieu, ton enjeu marquant? Ou ton...
Ben, c'est sûr que je voulais parler des charniers d'enfants autochtones ou des fosses communes ou des tombes anonymes, dit plus... façon plus officielle, qui a mené à des déboulonnages de statues. Tantôt, tu as nommé à peu près tous les endroits où est-ce qu'il y a eu des charniers découverts. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Little Copper, il y a eu Crown Brook, en Colombie.
Oui, il y en a eu plus que ça.
Il y a eu Williams Lake cette semaine aussi en Colombie-Britannique. Ça se passe beaucoup en Colombie-Britannique. Au Québec, pas beaucoup encore. Depuis quelques mois, il y a un groupe de maires Mohawk qui évoque la possibilité que des corps d'enfants autochtones soient enterrés sous l'ancien hôpital Royal Vic. Ils ont même fait une manif en décembre. Ils sont fait un peu brasser par la police. Cette possibilité a été soulevée par des survivantes des expériences, fameuses expériences à l'Allen Memorial à McGill, qui est tout près du nouveau Vic de l'Université McGill. Oui. Donc, ça se peut que le McGill ne veut pas résister, mais ça se peut qu'il y a des fouilles en 2022. Fait que, finalement, le déboudonnage des statues, ou en tout cas, les actions qu'il y a eu, ça a commencé en mai avec la ville de Charlottetown qui a retiré une statue de McDonald. En juin, juste après Kamloops, à l'Université Ryerson, ben, sa statue a été déboulonnée, décapitée. On a retrouvé sa tête à Landback Lane. À Calédonia. Ça, c'est un des architectes du système des pensionnats. Ça, c'était assez drôle. L'université va changer de nom d'ailleurs aussi. 1er juillet à Winnipeg, on a moins entendu parler. La reine Victoria et la reine Elisabeth II se sont fait renverser dans une manif le 1er juillet, une manif anticoloniale. McDonald's en nous à Montréal avec les superbes réactions de Coderre, entre autres.
Ben oui. C'est sale.
Et une fresque a été retirée de l'évêque Grandet dans une station de train à Edmonton en septembre, où ça illustrait vraiment les pensionnats autochtones avec un enfant autochtone dans les mains d'une sœur. Ça a été retiré à Edmonton. Donc, il y a eu beaucoup, entre mai et juillet, ou surtout. Mais je ne vous ai pas tout nommé, mais il y en a eu vraiment beaucoup, des réactions. Donc, c'était la deuxième vague après celle en Europe et aux États-Unis en 2020, en lien avec la mort de George Floyd.
Des anciens esclavagistes.
Exactement. Puis ici, ouais. Ça a été par rapport aux Autochtones. Fait que c'est intéressant comme phénomène. Ouais.
Faudrait se faire un beau cimetière de statues, quelque part.
Oui, comme dans les anciens pays du bloc de l'Est qui ont des cimetières de statues de Staline.
Ben oui. Ben écoutez, moi c'est toute la situation, toutes les bavures et assassinats policiers qui se poursuivent, hein, malgré là, la vague d'indignation. Ça s'est poursuivi en 2021. On n'a qu'à penser à Dante Wright, ce jeune afro-américain de 20 ans qui est mort d'une fusillade policière à Minneapolis au début avril 2021. Plus près de nous, on peut penser aussi à Jean-René Junior Olivier, 37 ans, qui a été tué par la police de Repentigny lors d'une intervention à la suite d'un appel au 911 qui avait été logé par sa mère parce qu'il était en détresse psychologique. Puis c'est sans compter là les cas de profilage racial qui mènent à des arrestations infondées, comme ça a été le cas par exemple pour Mamadi Camara, qui fait d'ailleurs partie des personnalités de l'année 2021 choisies par Le Devoir. Bref, il y a même que la situation est telle, tu sais, puis qu'elle se poursuit, que en juin 2021, l'ONU a appelé les États partout dans le monde à prendre des mesures solides et immédiates pour mettre fin au racisme systémique et à l'impunité. Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, écrivait ceci. Seules les approches qui s'attaquent à la fois aux lacunes endémiques des forces de l'ordre et au racisme systémique et à ses origines vont rendre justice à la mémoire de George Floyd et de tant d'autres dont la vie a été perdue ou irrémédiablement affectée. Eh bien, malgré cet appel-là, les réformes de la police se font toujours attendre, comme je le disais au début. Aux États-Unis, le projet de réforme de Biden a été carrément rejeté par le Sénat en septembre dernier. Le texte de loi s'attaquait entre autres à la large immunité judiciaire dont jouissent les policiers. Et le projet proposait aussi d'interdire les prises d'étranglement, genre c'était nommé tel quel, de limiter les transferts d'équipements militaires aux forces de l'ordre et de créer un registre national des policiers licenciés pour abus, entre autres. Et ici, ben la proposition de Projet Montréal à la mi-avril de créer des patrouilles policières non armées a soulevé l'inquiétude, si ce n'est pas le lire du syndicat des agents du SPVM. La fraternité a réagi en disant que la proposition laissait craindre que des idéologues provoquent la dégradation de la sécurité publique dans la métropole. On a ensuite parlé du désengagement policier, là, le de-policing, où des policiers disent ne plus pouvoir intervenir devant des situations possiblement criminelles pour éviter d'être filmés, puis après livrés au tribunal populaire des réseaux sociaux. Alors que dans les fêtes, en décembre, la ville de Montréal a présenté son budget pour l'année 2022, un budget de 724 millions dollars qui sont alloués au SPVM, ce qui est une augmentation de 45 millions par rapport à l'année passée. Bref,
c'est rien passé.
Le bras armé de l'État a de belles, belles années devant lui.
Avec Projet Montréal aussi, ouais.
Effectivement. Alors, nous, on est rendu où, là? On va aller faire un petit tour, juste une petite pause musicale. Alors, on est rendu à une de mes catégories favorites, mais vous aussi, je pense, c'est celle des citations racistes. C'est souvent désolant, mais disons que ça nous permet de nourrir notre petite rage intérieure. Simon, toi, ta citation raciste de l'année?
Micro ouvert, toujours. Il n'y avait pas assez de choix en 2021, ça Non, blague à part, c'est le champion que j'ai choisi, c'est Daniel Clérou, un ancien patrouilleur de la police de Laval qui est un régulier à Salut Bonjour, l'émission matinale préférée de Marie-Ève et Mathieu.
Ben oui!
Je ne sais pas s'il est encore invité comme analyste. Moi, je ne regarde pas ça, cette émission-là. Bref, on est dans le contexte de plusieurs fusillades impliquant des jeunes d'école secondaire à Montréal. Monsieur Clérou parle de Thomas Trudel, qui est un ado blanc, qui aurait été choisi comme cible au hasard, mais ça, on ne le sait pas encore au moment de la citation. Et lui, M. Clérou, de dire que la victime, j'ouvre les guillemets, n'a pas du tout le profil d'être quelqu'un qui fait partie d'un gang de par sa nationalité. Bon, d'abord, à ce que je cherche, autant les coupables que les victimes de fusillades à Montréal sont de nationalité canadienne, je pense à 100%, peu importe leur ethnicité, donc déjà bravo pour la distinction. Ce cher M. Clérou sous-entend clairement que ben, blanc égale pas gang, foncé égale gang de rue. C'est assez symptomatique des grands médias d'entretenir ce genre de préjugés. Et une autre manifestation qu'on voit souvent, c'est dans les choix de photos et de termes qui sont utilisés quand on décrit une personne noire, latino ou arabe versus quand on parle d'un bon blanc. Il y a vraiment un aspect qui est très différencié et ça, il y a plein de groupes qui le dénoncent depuis longtemps. Donc alors, à ce monsieur Clérou, on donne la palme de la révélation raciste TVA 2021.
TVA, mon Dieu!
TVA!
C'est fun comme trophée!
Et Mathieu, toi, j'imagine c'est aussi...
Ben, c'est un peu moins épais parce que c'est des politiciens qui sont des premiers ministres, donc c'est un peu plus subtil, mais sans l'être. C'est à la fois Legault et Ford, les deux larrons des deux plus grosses provinces du Canada. Je cite François Legault, vous allez la reconnaître. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000, j'empire mon problème. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne plus de 56 000, j'améliore ma situation. On a un sérieux problème de salaire moyen au Québec, on ne va pas faire exprès pour l'empirer. Puis il a été condamné, il a déclaré ça devant la Chambre de commerce ou le Conseil du patronat. Il a réitéré ses propos après avoir été dénoncé par plein de monde. Et comme on le sait, ben, son objectif est d'accroître le pourcentage d'immigrants économiques admis au Québec au détriment des réfugiés et des regroupements familiaux. Mais il fait rentrer surtout des immigrants qui gagnent des très bas salaires, entre autres des travailleurs étrangers temporaires. Mais il veut aussi des immigrants qui gagnent des gros salaires. Et dans le même style, ben, ça c'était en mai. En octobre, Ford, il a refusé de s'excuser pour les commentaires qu'il a fait au sujet des immigrants. Il avait invité tous ceux qui désirent immigrer à le faire s'ils veulent, mais comme tous les autres Canadiens, à venir télémédure. Si vous pensez que vous venez pour toucher une allocation et rester assis à la maison, ça n'arrivera pas. Et ça aussi, il a refusé de s'excuser, mais c'est quand même deux premiers ministres des plus grosses provinces qui tripent sur l'économie, puis ils sortent des niaiseries comme ça, des vieux préjugés. Je vais la garder pour une autre fois. J'en avais une de Jean Boulet, mon préféré, ministre du Travail au Québec, mais ça va aller une prochaine.
Ben, pour ma part, moi, je sors un vieux croulant des boulamites, parce que ma citation raciste est celle-ci. J'ai été pensionnaire, moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, j'en ai mangé des fèves au lard puis du gruau. Et c'est sûr que c'est difficile, la vie de pensionnaire, extrêmement difficile. C'est qui?
C'est Tigeant.
C'est Squat Novembre au soir.
Le Squat Novembre au soir. Et oui, Jean Chrétien, sur le plateau de Tout le monde en parle, le 24 octobre dernier, pour parler de son dernier livre intitulé « Mes nouvelles histoires ».
J'en ai mangé des bains.
Ça doit être nouveau, hein?
Son passage avait en général beaucoup fait réagir parce que il avait aussi affirmé qu'il savait rien des abus subis par les Autochtones dans les pensionnats lorsqu'il était ministre des Affaires indiennes de 68 à 74. Plusieurs ont d'ailleurs apporté des preuves concrètes du contraire. Mais c'est parce que là, Jean Chrétien, il a comme pas arrêté après ça de s'enfoncer. Il en a même rajouté.
Il creuse sa tombe.
Lorsque la co-animatrice Anaïs Favron l'a relancé en disant « Bon, vous avez jamais entendu parler des histoires dans les pensionnats. Il n'y avait même pas des rumeurs. » Jean Chrétien a confondu littéralement crime contre les enfants autochtones et agression sexuelle contre les mineurs dans les écoles tenues par des congrégations religieuses parce qu'il a répondu « Moi, j'ai jamais eu un problème. Je devais pas être joli garçon. »
Aïe, aïe, aïe.
Et il a aussi dit qu'aux États-Unis, c'est l'armée qui est allée détruire les Autochtones. Nous, c'est des missionnaires qu'on a envoyés. C'est moins dangereux. Il a aussi défendu son accomplissement pendant ses accomplissements pendant son mandat en vantant ses efforts pour améliorer l'accès aux études supérieures pour les jeunes autochtones, ajoutant « J'ai même adopté un fils indien pour donner l'exemple et ça prouve mon attachement à ce problème-là. »
Un indien.
Oh my God!
Ce problème-là.
Alors, voilà, c'est ce qui clôt ce florilège édifiant de citations racistes. On va retourner en musique pour... on va en avoir d'autres en 2022, ça n'arrêtera pas.
C'est déjà commencé.
On pourrait faire une émission juste de
juste
ça.
Juste de ça, oui, c'est ça, un genre de bestiaire à la Olivier Niquette, mais sur les racistes, nos racistes d'ici. Bref, on va aller en musique avec mon choix pour 2021, qui est la formation montréalaise Teke Teke. La pièce qu'on va entendre, c'est la pièce Kala Kala. Et c'est tiré de leur album Shishuri, Shirushi. paru en mai 2021. Vous dire que Teke Teke devait faire un concert le 14 janvier qui a été annulé pour vous savez quoi?
À Montréal, oui.
À Montréal. Et le spectacle est donc remis le 29 avril. C'est au Théâtre Fairmount. Donc, garochez-vous. Teke Teke et Kala Kala. C'était Teke Teke avec la pièce Kala Kala et sur les ondes de choc.ca à Montréal avec les Apatrides Anonymes. Toujours dans notre rétrospective de l'année, mais là, on est rendu à faire un peu des perspectives pour 2022, hein, des choses à surveiller.
À surveiller ou qui vont arriver ou qui arriveront pas ou qu'on prévoit ou pas. Mais c'est sûr qu'au Québec, il y a des élections en 2022. Il y a des enjeux identitaires qui vont revenir dans la campagne et dans les... Bon, on le voit déjà, ça commence tranquillement. La montée ou non du Parti conservateur du Québec, donc à suivre de ce côté-là. Simon parlait des chiffres en immigration tantôt. La CAQ promet 70 000 immigrants au Québec pour rattraper les retards. On verra les retards des dernières années. On verra ce qui se passera. Loi 21, ben, baisse de plus dans les sondages depuis quelques semaines. La Cour supérieure l'a validé en bonne partie là, au début de l'année 2021, sauf pour les élus et les commissions scolaires anglophones, mais la Cour d'appel va se prononcer en 2022 et ensuite la Cour suprême sûrement plus tard. Côté autochtone, ben, il va falloir surveiller la fameuse entente qu'il y a eu au début janvier avec les Premières Nations pour l'indemnisation des enfants autochtones qui étaient dans le système de protection, parce qu'on parle de 40 milliards, 20 milliards pour les enfants et familles, mais 20 milliards pour les nouveaux programmes des communautés en protection de l'enfance. ça faisait 15 ans que ça durait au niveau juridique. Les accords sont pour l'instant non contraignants et il y a des négos qui doivent se tenir toute l'année 2022. Sans parler des compétences des provinces là-dedans aussi au niveau des protections de la protection de l'enfance. Donc, c'est pas réglé. La loi 15 qui prévoit la mise en application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est adoptée en juin dernier au Canada. Le fédéral se donne un délai de 3 ans pour accoucher d'un plan d'action visant à modifier certaines lois canadiennes pour qu'elles soient conformes à la déclaration. Fait que ça, c'est pas fait non plus. Le gouvernement du Québec, comme 5 autres provinces, a fait connaître son opposition à la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de consentement des Premières Nations dans les projets énergétiques et miniers et d'exploitation de ressources naturelles. Et Legault parle d'un droit de veto offert aux communautés. Donc, 6 provinces qui veulent contester la loi, un peu comme dans le cas de la protection de la jeunesse. Donc, c'est loin d'être terminé. Pardon. Les femmes autochtones de Val-d'Or ont déposé un recours collectif, une demande de recours collectif en décembre contre le gouvernement du Québec, qui est l'employeur des policiers de la Sûreté du Québec, suite aux abus dont ont été victimes dans les dernières années. Ça, c'est à suivre aussi en 2022. Ghislain Picard obtient un nouveau mandat en tant que chef de l'Assemblée des Premières Nations. Pour un 11e mandat depuis 1992.
Aïe, aïe, ok.
J'allais dire 5e, puis je trouvais que c'était beaucoup meilleur.
Ouais. Ouais, j'avais comme pas réalisé que ça faisait si longtemps.
Il a battu Serge Simon, là, c'était cette semaine, le 25 janvier. Est-ce qu'il y aura une femme un jour au Québec, comme il y a au Canada et dans plusieurs communautés actuellement? C'est à suivre. Sinon, ben, dans le monde, au niveau autochtone, toujours, l'ONU lance cette année la décennie internationale des langues autochtones. 4000 langues autochtones survivent encore, tant bien que mal, dans le monde. 2 langues autochtones disparaissent en moyenne chaque mois. Et 400 sont menacées d'extinction, ouais, dans les dernières années. Et 400 sont menacées d'extinction, faute de locuteurs d'enseignement, de littérature, de relève ou de volonté politique. Au Canada, on estime que la moitié des 50 à 90 langues parlées par les Premières Nations pourraient disparaître d'ici 10 à 15 ans. D'ailleurs, le projet de loi 96 du Québec, la réforme de la loi 101, est contesté par les Premières Nations au Québec, entre autres parce qu'il perpétue la non-reconnaissance des langues autochtones. Donc, ça va être à suivre. On en reparlera. On l'expliquera mieux dans les prochaines semaines. Au niveau international, ben, élection en France, j'ai une citation de certain Éric Zemmour qui a fait en fin de semaine dernière.
J'espère que tu me scouperas pas.
Si je suis élu, les associations d'aide aux migrants seront traitées comme des ennemis.
Non, c'était pas ça.
Car elles agissent contre la survie de la France. Il n'y aura plus de subventions qui seront versées. Cédric Héroux ira en prison.
Bon.
Elles sont complices. Les assos sont complices des passeurs. Il n'y aura pas de tolérance pour ces associations qui pourrissent la vie des policiers.
Donc, qui pourrissent la vie des policiers, ouais, rien de moins.
Quel connard, quand même. C'est de mettre la pensée de Bob Côté, encore.
Oui, non, c'est...
Entre autres, Bob Côté. Au Liban, ben, des élections en mars dans le pays des crises depuis 2 ans. C'est complètement, normalement, des élections en mars. Au Brésil, Bolsonaro contre Lula. Si Bolsonaro n'est pas destitué dans le courant de l'année. Et Sergio Moro, l'ex-juge et ministre de Bolsonaro qui avait condamné Lula, devrait se présenter aussi. Ça va être assez chic, quand même. Aux Philippines, on parle d'une télé-réalité, Marie-Ève. La fille du président, Sara Duterte, se présente comme vice-présidente de Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur du même nom, qui est surnommé Bong Bong. Il est surnommé Bong Bong. Et qui a comme objectif de réhabiliter sa famille. Quoi. C'est complètement ça, là, quand aux Philippines, le monde est crampé, mais jaune, là. Mais
oui, non, c'est jaune, ça. Là, mais
et en Libye, il devait avoir des élections le 24 décembre qui ont été annulées parce que c'est le chaos, c'est la guerre dans le pays. Donc, qu'est-ce qui arrive avec la Libye? On en parlera pour les migrants, mais c'est sûr que c'est assez intense. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, messire?
Moi, je pense que oui.
On peut te laisser une petite minute?
OK, parfait, merci. Ben, j'en parlerai plus à la prochaine émission, mais les pays, il y a un rapport qui est sorti sur les pays qui vont arracher à cause des crises humanitaires, environnementales dans la prochaine année, surtout. Je voulais quand même parler de l'Afghanistan en terminant. Il y a plus de 700 000 personnes qui sont déplacées internes actuellement, plus tous ceux qui ont fui le pays avant et depuis la prise du pouvoir par les talibans. La faim menace 23 millions d'Afghans, soit 55% de la population, selon l'ONU, qui a réclamé 4,4 milliards de dollars auprès des pays donateurs pour 2022. Sauf que depuis août, l'aide internationale qui finançait environ 80% du budget afghan s'est soudainement arrêtée et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars qui appartient à la Banque centrale afghane. Fait que l'ONU demande des fonds pour aider, mais les pays occidentaux arrêtent leur aide internationale et gèlent des avoirs. C'est quoi la logique? Je ne sais pas trop.
Non, c'est ça.
Fait que l'Afghanistan surveillé, c'est le pays qui arrive en top de liste de qui va avoir la crise humanitaire la plus importante en 2022 devant le Yémen, le Nigeria, la Somalie, etc. Et peut-être mentionner aussi que dans 3 jours, le 29 janvier, ça va être les 5 ans
du massacre de la grande mosquée de Québec.
Il y a des manifs, des commémorations un peu partout au Québec. Et l'année aussi a commencé, Marie-Ève, avec quatre immigrants d'origine indienne qui sont morts gelés au Manitoba en essayant de traverser la frontière américaine. Et donc, voilà, il y a pas mal d'enjeux qui vont se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais grosse année 2022, je pense qu'on va être assez alimenté au niveau de l'émission.
Oui. Et on va suivre ça.
Et même s'il te reste une nouvelle, t'as encore du temps, Mathieu?
Non, c'est bon.
Ah, parfait.
Petite pause musicale, annonciatrice. Come on down, c'est la deuxième partie du quiz pour savoir, pour tester vos connaissances, si vous nous avez bien écouté pendant l'année ou si vous avez bien suivi l'actualité. Comme je vous le disais, cette deuxième partie va concerner la scène internationale. Alors, on commence, Mathieu, ça fait un petit lien avec un de tes sujets. Le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, aux élections présidentielles en France, a très, très récemment là dévoilé ce qu'il appelle, je cite, son programme islam. Laquelle des mesures suivantes n'en fait pas partie? OK? Interdire le port du voile islamique dans l'espace public et interdire la construction de minarets et de mosquées imposantes. B. Assurer la fermeture définitive des lieux de promotion du djihad et interdire les frères musulmans et toute mouvance liée. C. Imposer un strict contrôle des imams et des financements étrangers et expulser systématiquement tous les étrangers pouvant représenter une menace pour l'ordre public. Ou D. Interdire les prénoms à consonance arabe.
D.
Ben, je vais y aller avec D aussi, j'en ai entendu parler.
Donc, vous aviez raison, effectivement, même si ça fait partie de son programme général, d'interdire les prénoms à consonance arabe, ça fait pas partie de son programme islam comme tel, qui est en trois axes. Le premier axe, donc, qui allait avec A, c'est l'axe imposer la discrétion. Le deuxième axe qui avait avec le B, c'est stopper l'endoctrinement. Et le dernier, c'est empêcher les influences étrangères. Ça promet dans les prochains mois.
Ben, c'est la suite du projet de loi de Macron, de la loi de Macron qui a été votée en 2021 sur l'islam radical.
Oui, c'est ça, ouais. Mais en plus intense.
Ouais, oui, puis il s'inspire de... Je sais qu'en Suisse, il y a des cantons qui ont déjà voté par référendum contre des constructions de mosquées parce que ça... pour conserver les beaux paysages suisses traditionnels. Donc, il s'inspire d'un peu partout, j'ai l'impression.
Oui. Le Monde, on en a un petit peu parlé tantôt, notamment Mathieu, avec la Biélorussie et la Pologne. Le Monde construit de plus en plus de murs frontaliers. Selon plusieurs experts ou observateurs de la question, la tendance contemporaine serait même à l'emmurement du monde. De 6 en 1989, on est passé à plus de 60 murs physiques aujourd'hui. Lequel, parmi les suivants n'a pas été construit ou commencé à être construit en 2021? A. Celui du Texas à la frontière avec le Mexique. Celui de la Pologne à la frontière de la Biélorussie. Celui de la Hongrie à la frontière avec la Serbie. Ou celui de la République dominicaine à la frontière avec Haïti?
D.
Et toi, Simon?
Ben, je dirais, Texas avait été construit avant 2021?
Non, il a commencé en 2021.
Vous avez tout faux, les deux. Merci. C'est la Hongrie, avec la frontière avec la Serbie, qui était... c'était en 2015, en fait. Il date de 2015. Celui de la République dominicaine à la frontière avec Haïti, ça a été annoncé en mars 2021. Et ils ont commencé cet été à le construire.
Parce que des fois, on est mélangé parce qu'il y a déjà une clôture qui existe. Puis là, ils font un mur. Il y a des barbelés. Comme en Pologne, ils font un mur. Ouais, c'est ça, je comprends.
Ouais, ou des installations temporaires.
C'est ça, exactement.
On s'en va en France maintenant.
D'accord.
Éric Zemmour?
Non, Gérald Darmanin. Ah. De quoi Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, a-t-il accusé les personnes qui tentent de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre? A. De nuire aux relations entre la France et le Royaume-Uni. B. De faire du chantage en menaçant de lancer leur bébé à l'eau ou de pousser des personnes âgées à la mer. C. De ne pas comprendre le français, ce qui les empêche de comprendre les directives que leur crient les patrouilles françaises. Et D. De ne pas savoir nager.
Ben, c'est les bébés. C'est là, les bébés. Ça avait soulevé l'ire des organisations, des associations. C'est quand même horrible affirmer des choses, des niaiseries pareilles.
Oui, mais ça m'aurait pas surpris qu'il les accuse de pas savoir nager.
Et de parler français,
et
quand
de
même.
Pas parler français.
De pas nager en français.
Mais oui, mais en plus, c'est qu'il a dit ça, genre, à peine 4 jours après le naufrage.
Donc, tu parlais tantôt.
Des 27 morts, oui, ouais. C'est ça. Dernière question, mesdames et messieurs. Combien de travailleurs migrants, celle-là est tough. Combien de travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis que le pays a été choisi en 2011 comme hôte de la Coupe du monde de soccer de 2022? Est-ce A, près de 500? Est-ce B, environ 3000? Ou est-ce C, plus de 6500?
C'est moi qui ai fait un bloc là-dessus récemment, puis je m'en rappelle pas. Alors Mathieu...
Ben, je dirais plus de 3000.
Environ 3000?
Environ 3000, oui.
En fait, c'est plus de 6500.
Oui, parce qu'on ne sait pas le nombre exact, évidemment.
Évidemment, le Qatar, qui compte 300 000 habitants, accueille près de 2 millions de travailleurs étrangers, principalement venus du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka et du Népal. Et oui, c'est ce qui complète notre quiz rétrospective 2021. On va prendre une courte pause musicale avant de conclure l'émission. Conclut cette rétrospective 2021 des Apatrides Anonymes. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, je pense qu'on a bien du plaisir à la préparer, à la faire, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et ça passe toujours trop vite en plus.
Oui, je sais.
C'est vraiment trop le fun.
J'ai hâte de l'écouter, moi.
Moi aussi.
Si vous nous écoutez justement régulièrement, vous savez déjà que vous pouvez aussi le faire en balado ou en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. Ce que vous savez pas, par contre, c'est que depuis la semaine dernière, notre émission est désormais diffusée sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria, les dimanches à 14h et le mercredi à 13h30. C'est la seule radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique. Alors, on peut dire que maintenant, les Apatrides Anonymes sont peut-être pas coast to coast, mais coast... Comment on a dit ça tantôt?
Coast et coast.
Coast and coast, coast, oui, c'est ça.
Vous êtes bon. Sur l'île de Vancouver, ils doivent être contents.
En tout cas, on les remercie beaucoup. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et je vous invite à suivre notre page Facebook qu'on alimente régulièrement. Avant de se quitter en musique, Mathieu, regarde, on a un petit lousse. Tu veux-tu parler de ton préféré, ton nouveau préféré, le ministre Jean Boulet?
Oui, c'est sûr qu'avant, c'était Raymond Rollin-Barrette. C'est sûr que Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et maintenant de l'Immigration par intérim.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Ramboulet,
de la belle région de la Mauricie au Québec. Je n'ai absolument rien contre les migrants. C'est ce qu'a répondu le ministre qui a tenté de calmer le jeu et d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé en envoyant un gazouillis controversé. Je pense que c'était le 22 ou 23 décembre. décembre dernier. Il avait réclamé la fermeture du chemin Roxham tout en soulignant dans le même message que le gouvernement fédéral devait se mobiliser devant la remontée des cas de COVID-19. Et là, il y en a qui ont dit qu'il avait fait un amalgame entre les migrants et la COVID. Et la montée du variant. Puis il a finalement reconnu qu'il n'y avait pas d'éclosion liée à l'entrée des migrants par le chemin Roxham. Donc, il était... Mais tu sais, c'est vraiment... Là, c'est la caca à son meilleur.
Cet amalgame-là avait été fait en début de pandémie aussi, donc c'est une redite. Là,
fait que il s'est encore plus auto-enfargé en disant quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, il savait, mais il l'a fait pareil parce que c'est un ministre de la CAQ.
Mon Dieu.
Et là, ça finit. Écoute des citations, là.
Ben là, on va voir ce que ça va donner. Là, on a des élections 2022 avec Anne Casabonne et son comparse...
Éric Duhaime.
Éric Duhaime. Je te dis que la CAQ va de la compétition.
Puis Claire Samson.
Alors, on va se quitter en musique avec la jeune formation Geese de Brooklyn. On écoute la pièce Disco. Ben, c'est pas disco, mais c'est disco. Tiré de leur premier album qui s'intitule Projector, paru en décembre dernier et qui figure en 9e position du palmarès anglo de choc.ca. Nous, ben, on va se retrouver dans 2 semaines pour une émission régulière avec des nouvelles fraîches cette fois-ci.
Ouais, c'est quelle date, Marie-Ève?
Dans 2 semaines.
Le 10 février.
Le 10 février au soir.
Je savais en plus.
qui est une mauvaise foi. Donc, bonne soirée. Merci à vous deux et au 10 février.
Merci, Marie-Ève.
Merci tout le monde. À bientôt.